Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte le début de règne mouvementé de la jeune reine qui succède à son père à l'hiver 1952. 12 ans d'épreuves personnelles et politiques qui vont forger le caractère de la souveraine la plus connue, mais aussi la plus secrète du monde. Le 7 février 1952, lorsque la jeune reine, elle n'a que 26 ans, vêtue, gantée et chapeautée de noir, descend du quadrimoteur de la BOAC, British Overseas Airways Company, qui la ramène d'Afrique à Londres, elle est accueillie sur le tarmac par la totalité du gouvernement, Premier ministre en tête. Il s'agit de Winston Churchill, revenu à son poste en 1951 après la victoire des conservateurs. En jaquette, haute forme à la main, il s'incline devant sa souveraine. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Philippe de descendre. Depuis que son épouse est reine, il doit marcher 3 pas derrière elle. On dit qu'Annette de Caen a dû le lui rappeler alors qu'il s'apprêtait à s'avancer en même temps qu'Élisabeth. Philippe est désormais relégué au second plan. Une situation difficile que cet homme fougueux et orgueilleux a du mal à accepter. Le couple se rend à sa résidence habituelle de Clarence House, où la reine est accueillie par le secrétaire particulier de George VI, Tommy Lascell, qui l'attend avec des documents à signer. Le lendemain, elle prononce son discours d'accession au trône devant son conseil privé au palais de Saint James. Plus tard, dans ce même palais, Élisabeth II est proclamée officiellement nouveau souverain par la grâce de Dieu. Elle est désormais reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et chef du Commonwealth. Depuis l'indépendance de l'Inde, il n'y a plus d'empire britannique. Le Commonwealth est une association libre des États de l'ancien empire. Il sera une préoccupation permanente de la nouvelle souveraine, elle y est profondément attachée et le manifestera sans relâche. Élisabeth se rend à Sandringham pour se recueillir devant la dépouille de son père. Outre son chagrin personnel, elle va devoir faire face à la douleur de sa mère et de sa sœur totalement désemparées. Le lendemain, le catafalque du roi est exposé dans Westminster Hall. 300 000 personnes vont défiler en silence pendant 3 jours. Les funérailles sont célébrées le 15 février à Windsor, dans la chapelle Saint-Georges. Pour Élisabeth et Philippe, comme cela avait été le cas pour les parents de la jeune reine, l'accession au trône implique un déménagement. Ce sera un chassé-croisé entre la mère et la fille. Élisabeth II, son mari et leurs enfants s'installent à Buckingham Palace tandis que la reine-mère et Margaret intègrent Clarence House. La veuve de George VI supporte très mal cette situation et répugne à quitter le palais. Son statut de reine-mère l'indispose. Encore un problème pour Élisabeth, qui aime profondément sa mère et devra déployer des trésors de diplomatie pour ne pas la blesser. La princesse Margaret est aussi très éprouvée par la mort de son père. Elle a perdu un complice et un admirateur. Elle se sent abandonnée et inutile. Là aussi, sa sœur fera tout ce qu'elle pourra pour la soutenir. Comme si tous ces tourments ne suffisaient pas à Élisabeth, voilà que Lord Mountbatten, lors d'une réception chez lui, fait une déclaration qui va mettre le feu aux poudres. Maintenant, la maison de Mountbatten règne. La reine Marie, la veuve de George V, qui admirait son époux pour avoir imposé en 1917 le nom de Windsor à la dynastie, prévient le Premier ministre. Celui-ci demande une audience à la nouvelle souveraine pour la prier d'intervenir. La reine fait savoir qu'il est de son plaisir qu'elle-même et ses descendants continuent à porter le nom de Windsor. Le Parlement s'empare de l'affaire. La déclaration d'Élisabeth ne suffit pas. Il faudra qu'elle rédige un mémorandum approuvé par le gouvernement. Non seulement ses enfants porteront le nom de Windsor, mais lorsqu'ils se marieront, leurs descendants porteront aussi ce patronyme. Philippe est déstabilisé. C'est la première grave crise du couple. Le duc est meurtri par la mise au point de son épouse. Il va alors prononcer son premier étrange aphorisme, et ce ne sera pas le dernier, « Je ne suis qu'une maudite amibe ». C'est une métaphore malheureuse car tous les écoliers, mais pas lui, savent que les amibes se reproduisent elles-mêmes sans avoir besoin de former un couple. Il se sent effacé, bafoué, inexistant. S'il est le duc d'Édimbourg, le mari de la reine, le père de ses enfants, donc d'un futur monarque, il n'a aucun statut personnel. Il s'estime réduit à un rôle de figurant. Élisabeth, en se comportant en chef d'État et en chef de famille, a sans doute sous-estimé la blessure qu'elle inflige à son époux. L'affaire n'est pas close. Ce sujet reviendra dans la vie de la famille. L'année 1953 sera celle du couronnement, prévu pour le 2 juin. En plein préparatif, un nouveau deuil frappe la famille royale. La grand-mère d'Élisabeth, la reine Mary, veuve du roi George V, s'éteint le 24 mars 1943 à l'âge de 86 ans. Elle souffrait de terribles douleurs à l'abdomen, mais surtout, elle ne s'était pas remise du décès de son fils George VI. Avant de mourir, elle avait interdit que l'on modifie la date du couronnement de sa petite fille. Ses funérailles ont lieu à Westminster. Le duc de Windsor, son fils aîné qui l'avait tant déçu, sera autorisé à assister à ses obsèques, mais sans son épouse, la sulfureuse Wallis. Après ce nouveau deuil, Élisabeth doit prendre une décision essentielle et inédite concernant son couronnement. Doit-il ou non être retransmis par la télévision ? Churchill y est opposé. Il déclare « Je ne vois pas pourquoi la BBC aurait une meilleure vision que moi du couronnement de ma souveraine. » Elle réfléchit beaucoup. Elle n'est pas du même avis que son premier ministre. Elle pressent qu'avec la télévision, ses sujets vivent un changement d'époque. Un compromis est finalement trouvé. On diffusera en direct le couronnement parce que c'est un acte politique, mais on ne verra pas la partie sacrée de l'onction sainte. La reine sera protégée par un dais. Cette décision suscite bien des polémiques. Finalement, Élisabeth juge que ce serait une grave erreur d'exclure des millions de gens de cette page d'histoire illustrée. Le slogan des pro-télévisions est tout trouvé « Laissez le peuple voir la reine ». Si Churchill n'est pas d'accord, elle est soutenue par Philippe et Dicky Mountbatten. Élisabeth II a sûrement eu raison, puisque dès que l'on apprend que la cérémonie sera retransmise en direct, les ventes de téléviseurs, encore modestes, explosent au Royaume-Uni, mais aussi en France et partout dans le monde. Ce sera un spectacle international, le premier du genre. Très consciencieuse, la reine s'habitue à porter la lourde couronne de Saint-Édouard, 2,5 kg, que l'archevêque de Canterbury posera sur sa tête. Son père, George VI, avait déjà eu beaucoup de mal à en supporter le poids. Élisabeth la coiffe donc au petit déjeuner, en lisant les journaux, essuyant sans broncher les sarcasmes de Philippe, finalement admiratif de sa ténacité. Il y a aussi les essayages de sa robe et de son manteau de velours cramoisi bordé d'hermine, imaginés par Norman Hartnell, et surtout les innombrables répétitions. 4 dans l'abbaye de Westminster, d'autres dans la salle de bal de Buckingham Palace où des rubans adhésifs marquent la place de chaque intervenant. La reine est très exigeante, car elle se souvient combien son père avait souffert des approximations et des bévues qui avaient marqué son propre sacre. Le 2 juin 1953, il fait froid et il pleut sur Londres. Mais qu'importe. Des dizaines de milliers de personnes campent depuis 2 jours le long du trajet du carrosse. Élisabeth fait son entrée à 11h15 dans l'abbaye. La cérémonie va durer 4 heures. Tout se déroulera parfaitement jusqu'à l'onction sacrée pour laquelle elle revêt une simple robe de lin blanc qu'elle recouvre ensuite d'une cape de fil d'or, alors que l'archevêque de Canterbury lui remet les 2 sceptres figurant le pouvoir, la justice, l'équité et la clémence. Enfin, le prélat pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête de la jeune femme alors que retentit un triple « God save the Queen ». Philippe s'avance vers elle et s'agenouille en signe d'allégeance. Il prend sa main et lui dit « Je suis votre homme, Lige », avant de l'embrasser sur la joue gauche. La reine Élisabeth II quitte enfin l'abbaye, tenant dans sa main droite le sceptre et l'orbe dans la gauche. Elle regagne Buckingham Palace en compagnie de son mari sous les ovations, souriante malgré l'inconfort de l'énorme et lourd carrosse très mal suspendu, avant la traditionnelle apparition au balcon. La cérémonie a été parfaite, suivie par 300 millions de téléspectateurs. Si la diffusion en direct était en noir et blanc, un film en couleur a été tourné en même temps. Les bobines partiront le soir même dans le monde entier. Le couronnement est devenu un spectacle, il sera projeté dans les cinémas. Elisabeth II est la reine de l'image. Un petit détail remarqué par les caméras va cependant être à l'origine d'une affaire qui va enflammer la presse du monde entier. Après le départ de sa sœur pour Buckingham, la princesse Margaret attendait sa voiture. À côté d'elle se tenait l'ancien écuyer de son père, devenu administrateur de la maison de la reine-mère. D'un geste extrêmement naturel, Margaret, de sa main gantée, enlève une peluche sur l'épaule du jeune et bel officier en uniforme. Un geste anodin, pourtant révélateur d'une complicité et d'une intimité insoupçonnées jusque-là. L'officier est le Group Captain Peter Townsend. L'affaire Margaret Townsend commence. C'est en février 1944 que le roi George VI avait fait du chef d'escadrille Peter Townsend, héros de la bataille d'Angleterre, son écuyer. Un poste prestigieux qui oblige le titulaire à accompagner le roi partout. L'arrivée de ce beau garçon n'était pas passée inaperçue aux yeux des princesses. Elisabeth, 18 ans, avait alors dit à Margaret, de 5 ans sa cadette, « Pas de chance, il est marié ». Effectivement, cet aviateur intrépide avait épousé, en pleine guerre, la séduisante Rosemary Paul. Elle lui avait donné un fils. Mais très vite, le mariage avait mal tourné. Townsend était déprimé, persuadé à chaque mission qu'il allait mourir. C'est alors que le roi l'avait distingué. Margaret va tomber immédiatement amoureuse de lui, sans doute dès le voyage de la famille royale en Afrique du Sud. En 1950, l'écuyer est nommé directeur adjoint de la maison royale. George VI et son épouse sont tout à fait conscients du flirt de leur fille et du bel officier. Il s'agissait d'une véritable histoire d'amour. Peter Townsend, père de 2 enfants, est alors en train de divorcer d'une épouse qu'il avait copieusement trompée. À la mort de George VI, la reine-mère le nomme administrateur de Clarence House. Il continue donc à vivre sous le même toit que Margaret. Le divorce du couple Townsend est prononcé en 1952, au tort de son épouse. En février 1953, Margaret et le héros révèlent leur amour à la reine-mère qui s'en déclare enchantée. Philippe et Elisabeth le sont aussi et se montrent bienveillants, invitant le couple à dîner. En apparence, pour Margaret, tout est parfait. Peter a 38 ans, il est libre, elle en a 23. Sa mère, sa sœur et son beau-frère approuvent leur amour, rien ne s'oppose plus à leur mariage. Mais lorsque la presse s'empare de l'affaire Margaret, on s'aperçoit que la réalité est plus compliquée. Pour se marier avant l'âge de 25 ans, Margaret doit avoir l'autorisation de la souveraine. Et le fait que Peter Townsend soit divorcé est un obstacle. On se souvient que c'est parce que Wallis Simpson était 2 fois divorcé qu'Edward VIII avait dû abdiquer pour pouvoir l'épouser. Churchill est informé et se montre plutôt bienveillant à l'égard de Margaret. Mais son épouse, Clemmy, rappelle à son premier ministre de mari ce que lui avait coûté politiquement son soutien à Edward VIII. Il réunit alors son cabinet. La décision est sans appel. Le gouvernement s'oppose au mariage de la princesse avant qu'elle ait 25 ans. On va donc séparer les amoureux. Margaret partira avec sa mère pour un voyage en Rhodésie, tandis que Townsend sera nommé attaché de l'air à l'ambassade de Sa Majesté à Bruxelles. Dès lors, pour les journaux qui la traquent, Margaret devient la princesse triste. En réalité, pendant ces 2 ans qui les obligent à patienter, les amoureux contrariés s'écrivent presque chaque jour. La reine est très éprouvée par cette affaire. Elle culpabilise mais ne peut rien faire. Elle est obligée de partir avec Philippe pour un voyage post-couronnement à travers le Commonwealth, périple qui avait été interrompu par la mort de George VI. Ils seront absents 6 mois. Charles et Anne sont confiés à leur grand-mère qu'ils adorent. Les 2 enfants, à la fin du voyage de leurs parents, viendront les rejoindre à Tobruk à bord du nouveau yacht royal Britannia. Ce bateau, qu'Elisabeth et Philippe vont enchérir, fait alors sa croisière inaugurale. À son retour à Londres, la reine reçoit la démission de Churchill. Une page se tourne. Margaret fête ses 25 ans au mois d'août à Balmoral. Elle doit toujours demander l'agrément du gouvernement et du Parlement pour se marier. La princesse rebelle regagne Londres, tandis que Peter Townsend revient de Bruxelles. Il passe le week-end chez des amis, poursuivi par des meutes de journalistes et de photographes. La sentence gouvernementale tombe. Le cabinet refuse toujours le mariage. Si la princesse passait outre, une loi serait votée la privant de ses droits de succession. De plus, un exil de quelques années lui serait imposé. Une décision d'une incroyable sévérité. Margaret réfléchit. Le lundi 31 octobre 1955, elle reçoit son amant chez elle à Clarence House. Elle a pris sa décision. Le héros vient lui dire adieu. Les malheurs de la princesse font pleurer le monde entier. Elle a fait passer son devoir avant sa passion. Elisabeth culpabilise. C'est un beau gâchis. Le 26 juillet 1956, au Caire, le président Nasser, au pouvoir depuis 4 ans, décide de nationaliser le canal de Suez. Les biens de la compagnie du canal sont mis sous séquestre. Une provocation pour le Royaume-Uni et la France qui se partagent les actions de la dite compagnie. L'heure est grave. Le premier ministre britannique, Anthony Eden, qui a succédé à Churchill, demande à la reine de paraffer l'ordre d'envoi de troupes britanniques en Égypte pour sauvegarder les intérêts de Londres. La souveraine est le commandant en chef de toutes ses armées, mais c'est la première fois de son règne qu'elle autorise une opération militaire importante. La Royal Navy et la flotte française font route vers l'Égypte. Anthony Eden pense que Moscou encourage Nasser et lui livre des armes. Les États-Unis, qui ont refusé de financer le barrage d'Assouan, redoutent une intervention soviétique si l'Égypte est attaquée. Ils refusent d'intervenir. En revanche, la coalition franco-britannique est soutenue par Israël. Les opérations militaires débutent le 29 octobre et sont un complet succès qui se solde par l'occupation de la zone nord du canal. En représailles, Nasser y coule des navires pour le rendre impraticable. Il coupe ainsi la route du pétrole à l'Europe occidentale. Les Américains condamnent l'opération franco-anglaise, l'URSS menace. Le 7 novembre, l'intervention est stoppée par l'ONU et se transforme en défaite. Les troupes franco-britanniques vont devoir piteusement évacuer la zone. C'est une épreuve pour Elisabeth II car son gouvernement a échoué en son nom. Elle réalise que le cabinet lui a caché la réalité de la situation. Le résultat est que Washington a pris ses distances et que Nasser devient, grâce à ce fiasco, le leader du monde arabe. Il a réussi à venger son pays d'une humiliation. Tout aussi grave, l'image de la reine est attaquée par un jeune père du royaume, Lord Altrincham, très soutenu par la presse qui diffuse ses propos extrêmement violents. Il dépeint la famille royale comme une clique de hobereaux en tweed et demande la suppression de la Chambre des Lords. Il va jusqu'à attaquer Elisabeth dans le ton de ses discours.
La reine devrait dire des choses dont les gens se souviendront et faire des choses de sa propre initiative. Jusqu'ici, il n'y a pas le moindre signe qu'une telle personnalité soit en train de naître.
Elle est profondément blessée par ses critiques et furieuse contre Lord Altrincham. Elle tente de reprendre la main en nommant un nouveau Premier ministre, ce sera Harold Macmillan. Toutes ces épreuves, Elisabeth II les a affrontées seule. Philippe n'est pas auprès d'elle. Il a quitté Londres début octobre avant la crise de Suez, à bord du Britannia, en compagnie de son secrétaire privé Michael Parker. Il se rendait à Melbourne pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Son périple de plus de 4 mois le mène ensuite vers la station scientifique britannique en Antarctique. C'est la première séparation aussi longue du couple et Philippe est en crise. Pourquoi Philippe est-il parti si longtemps? Le mari de la reine déteste être enfermé dans un carcan. Son secrétaire privé, Michael Parker, très conscient de cela, a essayé de lui procurer une bouffée d'oxygène. Peu avant son mariage, il introduit Philippe au Thursday Club, dont les membres se réunissaient tous les jeudis dans un restaurant du quartier chic de Mayfair. Le président en est un étonnant personnage, un photographe nommé Baron. Ce club réunit des personnalités très diverses, des journalistes, des acteurs comme David Niven et Peter Ustinov et quelques aristocrates. Outre les déjeuners, ses membres se retrouvent parfois pour des dîners dans des nightclubs. Il arrive souvent à Philippe de participer à ses escapades nocturnes. Bien sûr, les joyeuses soirées du duc sont connues de Buckingham Palace. Des rumeurs de liaison commencent à circuler dans la presse américaine. Ces ragots sur de potentielles infidélités ont finalement obligé le duc et son secrétaire à démissionner du Thursday Club. La séparation des époux pendant 4 mois était-elle une confirmation de leur mésentente ou plutôt la volonté de prendre du champ pour permettre une réconciliation? Sur le chemin du retour de Philippe, un nouveau scandale conjugal éclate. Cette fois, il concerne son secrétaire Michael Parker. Celui-ci est informé que son épouse vient de déposer une demande de divorce car elle ne supportait plus les absences prolongées de son mari. Il quitte le Britannia à l'escale de Gibraltar après avoir donné sa démission à Philippe. Un futur divorcé ne peut être au service d'un membre de la famille royale. Les retrouvailles d'Elisabeth et Philippe ont lieu à l'aéroport de Lisbonne le 18 février 1957. Elles sont guettées par une armée de photographes. Les journalistes en sont pour leurs frais. Chacun des époux affiche un sourire éclatant. La reine a compris qu'il fallait donner un statut à son mari. 4 jours plus tard, le 22 février 1957, elle octroie à Philippe le titre de prince consort. La réconciliation est actée. Elle sera consacrée lors d'un voyage officiel à Paris en avril 1957. La bonne entente des époux est évidente. Et en juin 1959, lors d'un autre voyage officiel au Canada, cette fois, un communiqué de Buckingham Palace annonce qu'Elisabeth attend un heureux événement. Le 19 février 1960, elle donne naissance à un deuxième héritier mâle pour la couronne, le prince Andrew. Son patronyme est Mountbatten-Windsor. La reine a cédé. Andrew et les autres enfants à naître porteront un nom qui associe celui de la dynastie à celui de leur père. Philippe a gagné. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, 3 mois plus tard, Margaret, enfin consolée, épouse le photographe Tony Armstrong Jones. Sa sœur lui accorde le titre de Lord Snowdon. La princesse rebelle a enfin trouvé le bonheur, pour l'instant. C'est à cette époque que la reine et Philippe font presque du Britannia leur résidence secondaire. Ils sillonnent les mers et les océans du monde lors d'une série de voyages officiels à travers les États du Commonwealth. Ces voyages nécessitent une incroyable logistique et la préparation minutieuse d'un agenda millimétré. La Royal Navy assure la sécurité du yacht, accompagnant le Britannia, parfois aussi avec le concours de la Royal Air Force. La garde-robe de la reine est confiée à celle qui avait été sa nurse, sa chère Bobo. Et ce n'est pas une mince affaire. Dans ses périples, Elisabeth II se change plusieurs fois par jour. Robe, chapeau, chaussures, gants, tout est prévu à l'avance, sans compter les robes du soir et les joyaux qui les accompagnent. C'est la reine elle-même qui sélectionne les tiares et les colliers qu'elle portera le soir, ainsi que les broches qui scintilleront au revers gauche de ses tenues de ville. En janvier 1961, le couple arrive en Inde. Elisabeth est le deuxième souverain britannique à se rendre dans ce pays après son grand-père George V en 1911. De Bombay à Delhi, puis à travers le Rajasthan, c'est une succession de fêtes somptueuses, de promenades à dos d'éléphants, de chasse aux tigres. L'Inde des Maharajas fait un triomphe à la reine. En novembre, ce sera l'Afrique. Elisabeth II se rend au Ghana, contre l'avis de son premier ministre Macmillan. En effet, le président Nkrumah revient de Moscou, faisant du Ghana un pion soviétique en Afrique en pleine guerre froide. Mais la reine, qui avait déjà annulé un voyage dans cette ancienne colonie en 1959 car elle était enceinte d'Andrew, avait promis de revenir. Et pour Elisabeth II, une promesse de venir dans un état du Commonwealth doit être tenue. Elle a eu raison. Ce voyage est un succès. Le président Nkrumah est sous son charme. Ils vont danser ensemble lors d'une réception. La photo fait le tour du monde. Macmillan reconnaît que la reine a bien fait de vouloir à tout prix maintenir les liens avec le Commonwealth, quelles que soient les nouvelles options politiques de l'État membre. En janvier 1963, Elisabeth est en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Philippe lorsqu'elle apprend que le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. C'est une grande déception pour celle qui avait magnifiquement reçu le président français en 1960. Elle le tenait en grande estime. Les relations vont se refroidir entre la République et le Royaume-Uni. Au retour de sa tournée dans l'hémisphère sud, Elisabeth II va avoir un autre sujet de contrariété. En juin 1963, John Profumo, ministre de la Défense du cabinet Macmillan, est contraint de démissionner. Quelques mois plus tôt, il avait rencontré lors d'une partie fine chez le vicomte Astor une très jolie jeune femme, Christine Keeler. En réalité, c'est une call girl et elle devient sa maîtresse. Peu de temps après, la jeune femme, accompagnée d'une autre call girl, Mandy Rice Davis, passe un week-end chez un célèbre ostéopathe londonien, le Dr. Ward. Quelques jours plus tard, Christine Keeler accuse le médecin de l'avoir violée. La presse s'empare volontiers de cette croustillante affaire, d'autant plus que le Dr. Ward est très connu. À la faveur de l'enquête, on découvre que Christine Keeler est aussi la maîtresse de l'attaché naval de l'ambassade du RSS à Londres, Ivanov, un agent du KGB. On apprend bientôt qu'elle est aussi celle du ministre de la Défense, John Profumo. Le scandale mondain se transforme en véritable affaire d'espionnage. Les confidences que la call girl a arrachées sur l'oreiller du ministre étaient transmises directement à l'agent du KGB, donc à Moscou. Dans un premier temps, le ministre nie, mais il finit par avouer la vérité à sa femme, puis au premier ministre à qui il donne sa démission le 4 juin 1963. Désormais, il se consacrera à des œuvres caritatives. Quant au Dr. Ward, on découvre qu'il dirigeait un réseau de call girls. Attaqué de toutes parts, lâché par ses amis, il se suicide en absorbant des barbituriques. Or, il était membre du Thursday Club quand le prince Philippe en faisait partie. Leur relation était amicale et le médecin avait fait plusieurs croquis du mari de la reine. Il avait un certain talent et ses dessins sont mis en vente après sa mort. Buckingham Palace va faire appel au conservateur des collections de peintures et de dessins de la reine pour racheter toutes les œuvres impliquant le prince, voire d'autres membres de la famille royale. Il s'appelle Anthony Blunt, lui aussi va faire parler de lui. L'affaire Profumo est grave puisqu'elle a contraint le ministre de la Défense à démissionner en pleine guerre froide. À l'automne suivant, le 18 octobre 1963, le premier ministre Macmillan démissionne également pour raison de santé. Il est remplacé par Sir Alec Douglas Home, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères. Si l'affaire Profumo est retentissante, elle n'est hélas pas la seule affaire d'espionnage qui déstabilise le Royaume-Uni. Une autre, plus grave, a commencé dans l'ombre il y a déjà quelques années, c'est l'affaire des 5 de Cambridge. Dans les années 30, 5 étudiants du Trinity College de Cambridge sont recrutés par les services secrets soviétiques. Ils appartiennent tous à la Société des Apôtres, une sorte de club datant de 1820, devenu le haut lieu de la contestation sociale au sein du Trinity College. Grâce au roman de John le Carré, lui-même ancien agent au service secret de Sa Majesté, leurs noms sont aujourd'hui connus de tous. Kim Philby, appartenant à la bourgeoisie aisée, Anthony Burgess, un aristocrate homosexuel flamboyant, en révolte contre son milieu. Il y avait aussi deux Écossais, MacLean et Cairncross. Le cinquième n'est autre qu'Anthony Blunt. Tous vont appartenir au service secret de Sa Majesté, mais ce sont des agents doubles. Burgess et MacLean seront exfiltrés par le KGB vers l'URSS, Philby arrêté. Il va alors dénoncer Blunt. C'est grave pour la reine, car cet agent avait beaucoup travaillé pour son père pendant la guerre et dirigeait les collections royales. Il vaut mieux que cette affaire reste secrète. Un pacte d'immunité est conclu avec le conservateur après qu'il ait donné les noms de son réseau. Il restera sous haute surveillance et continuera à diriger les collections d'Elisabeth II. L'affaire ne sera révélée qu'en 1979 par Margaret Thatcher au grand courroux de la reine. Elle en voudra énormément à son premier ministre. Ces affaires d'espionnage vont beaucoup perturber Elisabeth II, mais elle va tout de même avoir une occasion de se réjouir. Le 19 mars 1964, elle donne naissance à son quatrième enfant, un troisième fils, le prince Édouard. Elle déclare alors « Quel bonheur d'avoir de nouveau un bébé à la maison !» Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale Au cœur de l'histoire consacrée à Élisabeth II.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Élisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989. Élisabeth II, la reine, par Jean Descartes aux éditions Perrin 2018.